Et alors, pourquoi la papote les papotes pose la capote? Pourquoi toutes ces parlottes pour que chacun note quand on bécote, quand on fricote?
Mais Jean-Paul, mais c'est pas ta popote.
C'est vrai, tu radotes que papa nasticote maman qui tricote, que si ça leur botte d'avoir des bébés qui trottent. Alors, et que sinon, même des salut bouillottes qui va les faire ribote, ben... Touche pas ta cocotte. Pas de pirouette, pouette, pouette, râpez la carotte tout en compote. T'as plus qu'à aller faire une belote. Non mais j'en peux pas, mais j'en capote, mais l'amour sans pare-choc, mais ça fout les chocottes. Oh. Oh. Alors là, je sors de ma réserve. Oh, visage papal. Car tu n'es pas un pape épatant. Tant il est patent que tous les potes qui s'en jugeotent suivent tes parlottes et têtes de linotte décapotent et mettent leurs capotes en poche. Mais ils peuvent se choper des tas de choses moches. Et ça te rend pas pâle. Non, toi, t'es pas pâle. En ce moment même, avec tout ce que le sexe chope. Mais même l'amour plie boutique. Alors tu peux le savoir, mon petit pape, hein. De l'amour qui capote, tu es le Jean-Paul Pote.
Alors sarcoïdose, le suffixe ose est toujours relié aux maladies. Tuberculose, névrose, myxomatose, aliagas, nicose. Et dans sarcoïdose, vous avez Sarkozy et dose. C'est donc la maladie liée à l'absorption d'une dose trop forte de Sarkozy. Ça tombe bien, ça fait 2 ans que Sarkozy est au pouvoir en France et pour beaucoup c'est l'overdose. Il en fait des dégâts et pas seulement en France. Tenez, il a été au Mexique quand, il y a à peine un mois, paf, la grippe mexicaine a ravagé le pays. Il porte la poisse. Savez-vous que la vente de somnifères et de Prozac augmente sensiblement le dimanche soir dans les pharmacies de garde? Pourquoi? Parce qu'un salarié sur deux, américain et européen, souffre d'insomnie et de stress liés au fameux lundi matin. 1 sur 2, l'autre est au chômage. Mais je me dis, mais pourquoi avoir choisi le lundi comme jour de démarrage du travail de la semaine? Je sais bien, c'est à cause de Dieu qui a créé le monde en 7 jours, et comme il s'est reposé le 7e le dimanche, c'est forcément qu'il a commencé la création du monde un lundi. Mais pourquoi être calqué sur les horaires de Dieu le Père? Il n'était pas en forme le lundi. Allez, prenons les plaques tectoniques. Il a commencé par ça. Vous avez vu l'état de ces plaques après à peine quelques millénaires? Mal soudées, disloquées, c'est la dérive. On dirait qu'il a acheté ses plaques chez Ikea. Et puis le lundi, il a aussi fait les volcans. Eh ben, ils sont même pas étanches, ça fuit n'importe quand. Ça sent le travail d'amateur, c'est laborieux, ça sent le lundi, la mise en marche. À mon avis, c'est aussi le lundi soir, juste avant de fermer, qu'il a créé la Belgique. Un truc tout plat, il s'est dit, ça va vite à faire, comme ça, c'est fait. Ce que Jean de La Fontaine a écrit reste franchement d'actualité. Mais il a été censuré. Ainsi, tout le monde connaît la fable « Le loup et l'agneau ». C'est une version aseptisée d'un premier jet sorti de la plume de La Fontaine et qui s'appelait alors « L'élu et l'agneau ». L'oraison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Nous allons montrer tout à l'heure. Un agneau de 14 ans se désaltérait dans l'eau d'un grand bénitier. Un élu de Dieu survint en proie au démon que la faim de jouvence poussait vers le garçon. « Oh, quel corbeau !» dit le renard en soutane. « Sans mentir, si votre absence de rasage ressemble à votre bel âge, viens sur mes genoux, bijoux, cailloux. » L'ado, sur les genoux du prêtre, s'en vint s'installer. « C'est l'heure de la sieste. À deux, on pourrait faire un petit goupillon. Viens, viens, viens !» Il prend un enfant par la main pour l'emmener vers demain et lui chanter des refrains. Oui, Yves Duteil a beaucoup piqué à Jean de La Fontaine. Tous deux coururent et derrière l'hôtel s'y presbytèrent. « Attendez, je n'ai rien pris pour dormir. Rien, c'est de se couvrir, il faut partir à poil. Je viens, mais alors ça fera 100 francs. Hein ? Sacristie !» s'écrit le père. « Passez à la caisse et à la confesse. Mais j'ai encore rien fait. Apprenez que ce ne sont pas les enfants qu'on fesse, mais les péchés. Allez, priez avec moi, notre Père qui êtes aux dieux. » Le prêtre, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Il mit le voile et partit en coup de vent grâce au chasse-bon Dieu. Un système de téléportation qui permet à un prêtre pris en flagrant du lit de trouver un autre lieu lié au culte.
Merci Bruno. Bravo.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui du Audi de Prairial de l'an 218 de ce qui fut une république. C'était il y a très longtemps. Le fond de l'air est frais, et frais en un seul mot, bien sûr. Le symbole du jour est les morocales. En introduction, Bruno Coppens, un extrait de sa pièce de théâtre Benzène et 2 extraits du jeu des dictionnaires de la RTBF, une émission que vous commencez à connaître. À la bourse, nette tendance à la hausse de l'angoisse métaphysique, la Grèce a été désignée comme éclaireur du pire et 2010 joue retour vers le futur en recréant les conditions économiques de 1930. Nous sommes toujours sans nouvelles de l'attaque du Palais Royal de Bruxelles, capitale de l'Europe, par Yann Bucquois ce 21 mai 2010. Vous êtes à l'écoute de l'actualité laïque et républicaine avec la Fédération de la Libre Pensée du Nord sur Radio Campus Lille 106,6 MHz ou sur le web www.campuslille.com. L'hémorocalbe, c'est une fleur de la famille des liliacées aux couleurs très diverses, plus de 60 000 variantes répertoriées. Autour des micros, Daniel.
Bonjour André.
Magie de la console.
Bonjour.
Et Bruno Coppens, le maître des mots, MOTS, en chair et en os, que nous remercions pour cette visite de bon voisinage.
Bonjour, bonjour.
Cette émission sera consacrée aux mots. Il y a des mots pour les mots qu'on voudrait oublier. Il y a des mots saillants, tranchants comme des couperets. Une chanson pour le dire, il y a des mots par le groupe Memo, album Le Petit Parapluie.
Il y a des mots saillants, tranchants comme des couperets, qu'on se jette à la gueule, comme une douche glacée, qui te mettent à genoux pour mieux te condamner, ceux qui portent les coups qu'on ne peut encaisser. Y'a des mots piquants, ardents comme des brasiers, je te brûle le cœur sans éparpiller, qui te jette d'en haut, te voir t'écraser, te mettre KO pour te voir briser. Y'a des mots de travers qu'on te fait avaler, des gueules et l'enfer comme on meurt étouffé, et le cœur à l'envers te plombe tout entier, les larmes en bandoulière comme défiguré. Non, 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 ceci n'est pas une chanson monotone. Non, 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 ceci n'est pas une chanson. Non, 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 ceci n'est pas une chanson monotone. Non, 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 ceci n'est pas une chanson. Y'a des mots ramarrés qui mouillent les baisers, qui foutent dans le passé, couteau dans les regrets, souille ta mémoire qui rouille sur ton passé, comme des feux follets qui viennent t'incendier. Y'a des mots de barbare comme un dieu fou allié, où le chemin de croix s'arrête lorsqu'on se hait, comme des chiens voraces qui les dents acérées viennent mettre en lambeaux tes sentiments piégés. Non, 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 ceci n'est pas une chanson monotone. Non, 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 ceci n'est pas une chanson. Non, 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 ceci n'est pas une chanson monotone. Non, 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 ceci n'est pas une chanson. Hey! Des mots qui saturent, qui hurlent sur le passé, comme des voix d'au-delà, comme un silence abstrait, comme une déchirure dans les voiles des pensées, qui sombrent dans l'océan de tes rêves atrophiés. Y'a des mots qui assomment, qui te font divaguer, qui tuent par ta tête, qui saoulent ta dignité, comme un coup de pied au cul pour un rien, pour un mais. Y'a des mots pour les mots qui vaut mieux s'oublier. Non, 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 ceci n'est pas une chanson monotone. Non, 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 ceci n'est pas une chanson. Non, 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 ceci n'est pas une chanson monotone. Non, 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 ceci n'est pas une chanson. Non, 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 ceci n'est pas une chanson monotone. Non, 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 ceci n'est pas une chanson. Non, 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 ceci n'est pas une chanson monotone. Non, 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 ceci n'est pas une chanson.
Mémo, il y a des mots, album Le Petit Parapluie. donc Bruno Coppens est notre invité. Mm-hmm. Coppens, merci d'être venu de tourner au voisin. Tourner
c'est
une quinzaine,
pas très loin, ça va encore ça.
Pas très loin, une quinzaine de kilomètres de nos studios. Vous travaillez dans tous les pays francophones, Canada, Belgique, évidemment, puisque vous êtes d'Outre-Quiévrin, France.
Et la Suisse aussi.
Émission de radio, pièce de théâtre. Vous venez de sortir un livre, Le fond de l'air effraie. Effraie en un seul mot.
Juste une petite parenthèse, c'est le fond de l'air, E-R-E, hein.
Oui, de l'époque. Hein.
Oui,
c'est vrai,
il y a raison.
Il y a deux jeux de mots pour le prix d'un.
J'ai cru lire dans votre biographie que vous aviez fait des études de philologie romane.
Romane, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est
des études de philologie romane? C'est simplement un autre nom que je vous c'est bac lettres, je crois.
C'est le baccalauréat lettres.
Pour être prof de français dans le secondaire, pour les 15-18 ans. Parce que comme en France, c'est très compliqué, c'est pas la même dénomination pour nous que chez nous. Donc c'est pour être prof de français dans le secondaire supérieur. J'étais persuadé que je voulais être prof. Et puis je me suis rendu compte, dès que j'ai donné cours, que c'était une catastrophe, c'est pas ça que je voulais faire. En fait, un professeur de français aujourd'hui, que ce soit professeur maths ou autre chose, prof c'est d'abord assistant social, psychologue, éducateur. Et le contenu, on verra après. Il faut d'abord que le groupe existe dans la classe. Donc moi, je veux dire, moi, je n'avais pas la vocation de... Je fais d'autres choses. Je fais aussi animateur en salle de spectacle quand je joue. Mais ce n'est pas la même chose. Moi, le français, je crois que j'ai fait ça surtout pour rester dans la littérature, pour lire des livres, etc. Donc j'ai adoré les 4 années d'études que j'ai faites autour de tout un tas de bouquins, tout ça. Puis ça m'a permis d'écrire mes propres textes d'abord. Mais enseigner, c'était pas mon truc. Du coup, j'ai heureusement commencé déjà à faire des spectacles quand j'ai fini mes études, ce qui fait que j'ai pu un peu, à un moment donné, choisir une autre voie.
Oui, mais bon, je pense que vous continuez comme éducateur aussi.
Mais c'est pas vraiment la même chose. Je crois que ce que je donne en spectacle, c'est l'idée aux gens que les mots, il y a une liberté, qu'on peut tout faire. Parce que, en fait, les gens, vous savez, beaucoup sont coincés par la langue parce qu'ils ont l'impression de pas bien s'exprimer, de faire des fautes, d'avoir une mauvaise orthographe, etc. Du coup, ils ont tellement peur d'utiliser leur langue qu'ils n'osent pas. Alors que quand on écoute un spectacle, on se dit, finalement, les mots, ils n'appartiennent ni à Robert, ni à Larousse, ni à personne. Ils nous appartiennent à nous. Chacun doit reprendre ses mots à lui. Et donc, c'est une liberté totale. Et donc, je crois que c'est peut-être ça qui se dégage du spectacle. À part ça, le reste, c'est des bêtises, des conneries que je raconte.
Des conneries, je ne sais pas, moi, garantie piège et main d'œuvre.
Oui.
J'écris des romans d'anticipation, c'est pas tout à fait des conneries, en fait, appel à l'intelligence quand même.
Oui, mais c'est, disons que c'est surtout trouver plein d'exemples pour montrer que justement la langue française peut nous permettre d'exprimer des sentiments et des points de vue. Moi, je trouve ça super important, parce que finalement, dans la vie, à part voter une fois tous les, je sais pas, vous, c'est tous les 5 ans ou au régional, enfin tous les 2-3 ans, voilà. Nous, c'est pareil, parce que chez nous, avec les problèmes politiques qu'on se tape, tous les 6 mois, on doit voter, donc on est un peu marre. Mais sinon, à part ça, quels sont les moyens d'expression des gens? Très peu. Il y a des pétitions parfois, il y a des blogs sur Internet, mais bon, voilà. Tandis que finalement, si on veut exprimer si on a un ras-le-bol par rapport à un truc qu'on vit dans la société ou quoi, eh bien, jouer avec les mots, essayer de faire en sorte de modifier les mots pour en faire sortir quelque chose du jus de mots, eh ben ça permet déjà de se soulager, de se dire waouh, j'ai trouvé un truc qui me permet d'exprimer mon sentiment de ras-le-bol par rapport, je sais pas moi, à Benoît XVI ou j'en sais rien, à d'autres choses. Et donc c'est déjà un premier pas d'expression. Après, on peut aller plus loin dans l'engagement, mais en tout cas comme premier pas, je trouve que c'est très important. Et on a tous ça. Il y a juste que effectivement, les gens ont peur de jouer avec les mots parce qu'ils ont l'impression qu'il faut parler correctement, comme tout le monde, pour se faire comprendre. Alors que dès qu'on est amoureux, par exemple, dès que vous êtes amoureux, on commence à trouver des petits mots qui ne appartiennent qu'à vous et à votre copine. Et donc là, du coup, on est en train de créer des mots parce qu'on se dit, ce serait quand même mieux de trouver des mots personnels, personnalisés. Voilà. Je vois le titre d'un livre qui s'appelle « Des mots de Marc Maille ». C'est fantastique quand même. On est dans le domaine. Là.
Donc Marc Maille est venu nous rejoindre. Peux-tu dire bonjour aux auditeurs, Marc?
Oui, je veux dire des mots.
Voilà, je connais ton frère.
À la fois des mots gentils, oui, tout à fait. Les mots qui maillent, je crois que c'est important, les mots qui maillent. Mm-hmm. Mais je suis très content d'être dans cette émission parce que, effectivement, je le disais en aparté tout à l'heure, j'ai pu assister à un spectacle au moins de Bruno Coppens, et effectivement j'ai pris les mots à la hauteur, j'irais, de la de la barre qu'il montait comme dans une compétition de plus en plus haute, mais qui faisait qu'effectivement les gens pouvaient toujours sauter à leur hauteur.
Oui, exactement. Les gens pouvaient me suivre. Parce qu'on a l'impression que les... Non, il y a des gens qui disent « Ouais, c'est super cérébral, faut écouter tout ce que tu racontes. » Et finalement, quand je vois le public dans la salle, en fait, ils rigolent. Ils sont, on a entendu un extrait tout à l'heure de Benzen. Bah, malgré toutes les pirouettes verbales, les gens y suivent, l'histoire, ils savent ce qu'il y a.
Effectivement, on ne saute pas avec son cerveau. C'est le cerveau qui peut sauter de temps en temps. Mais
c'est... Oui, c'est exactement. Clair, c'est... Ouais.
Les gens se laissent porter, je veux dire, quand on,
tout à fait.
Quand on est dans la salle. Enfin, on se laisse porter quand on vous écoute. Mmh. Enfin, mais bon, comme tous humoristes.
J'aimerais leur pu chanter la chanson « Je vous ai apporté
oui.
des momos
». Excellent.
Mais bon, les gens ont du mal à s'exprimer. Mmh. Je sais pas, j'ai relevé une phrase d'un penseur, Adam Smith, mal connu, que de gros efforts sont nécessaires pour arriver à rendre les gens aussi stupides et ignorants qu'il est possible de l'être pour un humain.
Oui, c'est bien ça.
Pour un penseur...
Faudrait mettre ça dans toutes les portes d'école à l'entrée pour montrer qu'on fait beaucoup d'efforts. Oui, ben, moi, souvent, les profs de français viennent en disant « Oui, monsieur, vous comprenez, avec les textos, c'est ça qu'on dit en France, nous, oui, c'est SMS, ben, bon, SMS. Les jeunes n'écrivent plus, etc., catastrophe. » J'ai dit, écoutez, les jeunes n'ont jamais autant écrit, ils n'écrivent plus que nous, parce que nous, avant, il n'y avait pas les SMS, il n'y avait pas l'Internet, donc on n'écrivait pas.
Il n'y avait pas de messagerie, il n'y avait pas de mail.
Donc, les jeunes écrivent plus qu'avant, ça c'est une chose. Alors, le contenu, sans pas encore en discuter, mais au moins, ils écrivent. Et puis, je crois que ce qui est génial, c'est que les jeunes savent très bien, quand ils s'expriment avec un autre jeune, ou avec un adulte, ou avec le professeur, quel langage utiliser. Donc, ils apprennent des choses formidables durant la vie, c'est qu'ils savent qu'avec chaque personne différente, ils auront un langage différent. C'est-à-dire, soit comme en verlan avec leurs potes, soit de façon un peu plus ouatée avec les adultes, etc. Donc, je dis au prof, vous savez, il n'y a pas vraiment de danger. Puisque parfois, effectivement, il y a des mots qui dérapent, qui sont mal écrits sur MSN, du coup, ils les transcrivent dans leur dictée. Mais sincèrement, la dictée, c'est pas ça le summum de la vie non plus, hein. C'est d'abord écrire des choses, que les jeunes expriment leurs sentiments, leur point de vue. Après, que la forme soit importante pour qu'ils puissent communiquer, mais il ne faut pas placer l'orthographe avant l'expression. Sinon, c'est les brimer, c'est les empêcher d'écrire. Mais les profs de français, beaucoup, préfèrent qu'ils écrivent correctement, même si les phrases sont creuses, genre « papa fume du tabac dans une forêt », comme on apprend à 6 ans. C'est quand même une phrase qu'on ne devrait pas apprendre à personne, puisque « papa fume une cigarette dans la forêt, c'est pour mettre le feu ». Je veux dire, c'est un truc anti-éducatif, mais ça, on apprend. Et si l'enfant écrit correctement, alors il a ses points.
Non, moi, je partage assez. Bon, c'est vrai qu'on vit... Bon, il y a plusieurs choses. On vit une immédiateté. Donc, mm-hmm. c'est vrai qu'on réfléchit même plus, on écrit. Alors après, j'accepte, on est multilingue sans savoir.
Oui.
Hein? Donc ça, j'accepte aussi. Non, le problème que j'ai, c'est de dire, bon, est-ce qu'il faut garder l'information en mémoire et la transmettre demain à mes petits-enfants? Voilà, c'est ce que je me dis. Là, voilà, c'est un peu dans le sens de dire, la compréhension, on peut dire, effectivement, on est de son temps et on doit comprendre ce qui se dit, ce qui se fait dans le temps qu'on vit. Par contre, voilà, c'est un peu Je crois que on aura le même problème dans la mémoire numérique. On va perdre énormément de choses. Parce qu'on aura des formats différents. Déjà, si on prend l'image, la photo.
Oui, c'est aujourd'hui.
On va perdre en image, on peut perdre en son avec les formats du son. Mmh. Et pourquoi on ne perdrait pas, effectivement, dans l'écriture avec son format?
Oui, c'est vrai, c'est vrai de ça. Mais moi, l'écriture sert pour deux choses. Il y a pour les autres et pour soi aussi. C'est-à-dire que quand on écrit des tas de choses, des petites choses, un journal intime, par exemple.
Voilà.
Mais on a dit dans 10 ans, c'est pour toi, pour savoir comment tu étais à cette époque-là.
Tout à fait.
Voilà, donc ça c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme.
Ah non, mais c'est, l'important c'est effectivement,
de s'exprimer,
c'est déjà de s'écrire, d'écrire et de s'exprimer. Je suis d'accord, là je rejoins.
Ouais.
Voilà, après la transmission.
Ah oui, ça, ben, c'est un autre problème. Hein, ça.
Je pense qu'elle est cuite, la transmission, puisque maintenant les gens écrivent sur leur ordinateur. Un décès, hélas, ces choses arrivent.
On l'apprend pas.
Je vois mal les héritiers aller... craquer le mot de passe déjà pour rentrer sur votre session.
Tu as raison.
Il va y avoir des choses, on s'avance vers un monde assez catastrophique parce que j'imagine les abonnements qu'on souscrit, toutes les informations, les factures qu'on reçoit par mail et autres. En cas de décès, qu'est-ce qui se passe au milieu de tout ça? J'adore les codes et les mots de passe qu'on vous remet, tout ça,
c'est vrai.
Où vous les avez cachés?
C'est ça.
Vos enfants sont pas obligés de le savoir.
L'autre souci que j'ai, moi, par rapport à l'écrit, enfin, un des soucis, c'est que c'est l'immédiateté. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous envoie un email ou un SMS, si tu ne réponds pas dans l'heure ou les deux heures, Alors que, je veux dire, chacun a ses occupations. On travaille normalement la journée. Et, mais avec tout ce qu'on a comme engin, on a l'impression que les gens vivent dans une époque de loisirs tout le temps. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps devant MSN, tout le temps devant GSM, enfin le SMS, Natel, etc. Enfin, Natel, c'est en Suisse. C'est quoi, portable, c'est ça, voilà. Nous, on dit GSM en Belgique. Et donc, que les gens doivent répondre tout le temps. Mais les gens ne sont pas disponibles tout le temps. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que tu n'as plus de réflexion, du coup. Si on me dit, tiens, voilà, rendez-vous 15h, tu vas venir quand même pour ça. Et alors, tu es là, mais attends, mais je. Qu'est-ce que j'ai. Et donc, il y a une sorte de précipitation, une vitesse qui s'accélère comme ça. Et ça, c'est difficile parce que l'expression, c'est bien, mais si c'est juste pour parler, mais pas dire quelque chose d'intéressant, alors c'est gravissime.
C'est vrai qu'on monte le conflit. On monte le conflit plus vite parce que je crois qu'effectivement, on réfléchit moins, on analyse moins la situation. On répond un peu peut-être comme l'immédiateté, je l'avais dit tout à l'heure.
Oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais, ouais.
Et paf, c'est source un peu d'agressivité et de conflit après derrière.
Ouais, c'est ça.
Alors après, comme on inonde aussi maintenant, effectivement, en quantité, alors on enlève un peu de qualité, on augmente la quantité, paf.
Ouais.
On augmente la quantité et dans les entreprises, bon, bah, on reçoit un mail avec une pièce jointe, 25 pages de dont 12 de tableaux remplis de chiffres.
Tout à fait.
Et au bout de 2 heures, faut répondre.
Attendez, et puis surtout, alors ce qui est terrible, c'est qu'après, pour le contrat, il y a tout un petit truc que personne ne lit jamais.
Bien sûr. Hein, c'est comme les contrats, les contrats d'assurance, oui, bien sûr.
On a des pages, ils pourraient mettre dedans, vous devez payer à vie 1 000 euros par mois jusqu'à la fin de vos jours. On signerait parce que personne ne prendra jamais le temps de lire
exactement.
Ça.
Exactement.
Donc c'est vraiment.
Alors ben une petite chanson sur les mots, la chanson numéro 3, les mots crus, par Mel. C'est quand qu'on rigole. Album c'est quand qu'on rigole. Mel, les mots crus.
J'écris des mots crus car je suis très cuite quand j'enfile le tutu de poète de service. Des mots crus pour pallier les moqueries. Ouais, j'écris des mots crades, ça me sert de parade. Et tu voudrais que je sois poétique, mais t'as pas de peau, y'a un hic. J'écris des mots crus pour la démocratie, pour cramer les bandits qui croient que je crie pour rien. Je crache des mots crus dans un tout petit micro. J'ai une crête qui craque pour les crapauds. Et tu voudrais que je sois poétique, mais t'as pas de peau, y'a un hic.
Les mots crus.
Pas mal, ça.
Joliment troussé comme texte.
Je n'entends pas beaucoup parler pour l'instant, mais on vous donnera des nouvelles là. Les mots crus, vous êtes loin de la mer batterie.
Ah, pas très loin, 15 km, c'est pas très loin. C'est vrai, ma pauvre mère batterie. C'est terrible, vous savez ce qu'on vit chez nous, c'est incroyable. On est dans quand même une crise économique profonde chez nous, hein, parce que au niveau européen, la zone euro, etc., comme je disais, la zone eurogène pour l'instant, et c'est pas beaucoup de plaisir. Et le problème, c'est qu'on est dans un processus pour essayer de trouver une solution à, je sais pas, un truc qui concerne peut-être 50 000 personnes, parce que les communes à facilité autour de Bruxelles, la BHV, le fameux BHV, ouais. Ça concerne pas grand monde. Et dans la vie courante, dans la vie normale, quand quelqu'un va à la boulangerie, si vous allez à la boulangerie et que tu parles, je sais pas moi, une langue étrangère, tu dis « I don't speak French », la personne devant te dit « qu'est-ce que vous voulez, un pain ?» Elle désigne les baguettes, etc. Et donc dans les communes à facilité où il y a deux langues, quand il y a un problème, l'autre essaie de s'arranger. Et bien là, non, ça a été tellement institué que plus personne ne veut faire ni un pas de côté, ni un pas à gauche, ni un pas à droite. Alors on est là dans un truc de réforme, le gouvernement pète, en affaire courante, ça veut dire qu'il n'y a plus de décision qui est prise vraiment, et on doit revoter, ça coûte la peau des fesses, on va revoter les mêmes, parce que de toute façon, dans le parti francophone, il n'y a pas d'autres candidats possibles. Les petites listes, de toute façon, n'ont pas eu le temps de s'organiser puisque les élections étaient anticipées. Et donc, il y a juste du côté flamand qui vont un peu être encore plus flamingants, donc plus extrémistes. Et ce qui est terrible, c'est qu'eux, ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, leur miracle économique s'est déroulé en fait il y a 8-10 ans. La Flandre était au top, c'était avec le port d'Anvers, c'était une des régions les plus riches d'Europe. Mais depuis 10 ans, ils tombent dedans, ils tombent de très haut, avec Opel, Anvers qui a fermé, enfin, il y a plein d'entreprises qui ferment. Et du coup, ils auraient dû faire leur combat il y a 10 ans pour vraiment se dire, ça vaut le coup de partir. Maintenant qu'ils sont là, ils se rendent compte, mais les politiciens ont tellement engagé de combat qu'ils ne veulent plus faire une marche arrière. Mais en fait, je crois qu'ils se rendent compte qu'économiquement, ça ne sert à rien d'être tout seul. En plus, l'Europe, c'est pas dit que l'Europe acceptera que la Flandre existe par elle-même toute seule, parce que si la Flandre existe toute seule, qu'est-ce qui va se passer? La Catalogne demain va demander l'indépendance, la Corse, la Bretagne, enfin après je sais pas, Luxembourg, pareil, Lille peut-être, et donc on aura, donc c'est pas possible que l'Europe accède, donc la Flandre est en train d'avancer vers une sorte de gouffre économique et politique, donc je sais pas, enfin donc c'est vraiment malheureux quoi, malheureux.
Alors, c'est pas possible que l'Europe accepte. Moi, je me suis connecté il y a pas longtemps sur un des sites de l'Union européenne. Ouais. Et on vous demande vos coordonnées pour poser une question. Et il y avait quand même beaucoup d'allusions à la région.
Oui.
La région passait avant le pays.
Oui. Mais...
Dans le formulaire que j'ai rempli.
Ah, okay.
Parce que bon, on est en train de se demander si l'Union européenne, on va pas. Le but n'est pas de découper quand même ces pays en régions. Bon,
ce que tu veux dire, éventuellement, l'île serait rattachée
en euro-région. Oui, c'est ce qu'on
voulait. Voilà.
Dans cette en euro-région,
la région est rattachée.
Oui, c'est vrai. Hein,
c'est plutôt
la Picardie. Picardie. Voilà. Ouais, c'est vrai.
Bon, la région dont tu parles, c'est bien celle-là.
C'est plutôt ça.
Oui,
pas nécessairement.
Il y a plus de, effectivement, de points communs entre. Bah, tourner la région
clair.
Belge qui est juste autour de
que,
nous,
au
tourner
nord,
Mougron,
à
ouais. que,
bah, qu'avec le,
pas, à la rigueur,
que nous avec la Flandre,
Amiens, ouais. en France qu'avec Amiens ou Paris, bon,
c'est
des régions entièrement différentes, hein. De toute façon nos destins ont été longtemps unis, bon,
Clovis, oui, c'est vrai.
Si mes souvenirs sont exacts, Clovis, premier roi de France, est né
oui.
à Tournai.
Tournai, tout à fait.
Donc,
c'est vrai.
Il a mal tourné
lui, il a tourné en rond, il y a un rond-point qui s'élève, donc je ne sais pas s'il a mal tourné, mais en tout cas il tourne encore.
Oui, c'est quand même grâce à lui que la France c'est la fille aînée de l'Église. Hein.
C'est... Oui, c'est
oui
vrai,
bien sûr, à Paris. Hein.
Donc il a dû mal tourner.
Oui, parce que moi, tu vois, c'est un peu, je vois Clovis, c'était toi, quoi. C'est-à-dire, hein, tu mets les barbelés,
c'est vrai.
Tu tournes la vis, et puis le mec, il n'y a plus Caster.
C'est actuel.
Non, je sais pas. Je sais pas. On pourrait le penser.
Que tourner, bon, c'est hyper francophone, finalement. Donc, bon, alors, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'on le patois n'est pas le même, j'ai l'impression.
Que chez vous?
Oui.
Non.
C'est un patois picard.
Oui.
Chez nous, je ne sais pas comment on peut qualifier ce langage populaire que parlaient couramment nos grands-parents.
Oui, mais il y a tout un vocabulaire en Wallonie qui est très différent du français. Il y a plein de mots qui ne sont pas les mêmes. Le mot serviette n'est pas le même chez vous, je crois.
Effectivement.
Il y a plein de choses.
Comment on dit serviette
Nous, les torchons. Alors, les serviettes, c'est. Alors, c'est difficile, les serviettes. Parce qu'il y a plusieurs choses.
On mélange déjà pas les torchons et les serviettes. C'est sûr. Ça, c'est
torchons,
fondamental.
C'est problème par terre. D'accord. Et les serviettes, ce qu'il y a, c'est que serviette, chez nous, c'est aussi la mallette dans laquelle tu glisses les documents. Ça, c'est une serviette.
L'attaché-caisse.
Avec la mallette. C'est la serviette. La serviette, c'est aussi ce qu'on met à table pour se frotter quand on mange. Mais les serviettes, c'est aussi pour... Il y a l'essuie-main. Mm-hmm. Voilà. Pour la vaisselle, etc. Donc, je sais que les mots sont pas pareils. Du coup, il y a tout ce vocabulaire qui, fatalement, dans le langage populaire, a aussi eu des traductions différentes aussi. Hein. Mais l'accent, c'est peut-être logique aussi. Déjà, en Wallonie, entre Tournai, Mons et Charleroi, les accents wallons sont différents, alors qu'en fait il y a 50 km d'écart, quoi, donc c'est pas grand chose, mais malgré tout ça change.
Et là-dessus, André, sur le propos là que tu tiens au niveau des patois, moi je me souviens de deux villages qui étaient distants de 2 km et en France, bien évidemment.
Mais ils ne se comprenaient pas.
Ils ne se comprenaient déjà pas.
C'est génial.
Impressionnant.
J'adore.
Tout gamin, j'étais émerveillé parce qu'on se rencontrait encore dans ces moments de nouvelle année, des choses comme ça. Et je savais que quand j'allais à Billy Berclou, mais je n'aurais rien compris de l'après-midi. Et j'habitais à 2
kilomètres.
Billy Berclou. J'habitais à 2 kilomètres.
On dirait un
Western. Les personnes qui m'accueillaient, je ne comprenais rien de l'après-midi. Bon, enfin, quand je suis accompli, c'est pareil. Ou alors, je comprends rien, ou c'est les gens qui ne comprennent pas. Donc,
c'est
à peu près au même
niveau. Voilà, on en est là.
Ah, moi, pour se comprendre, utilisons les mots.
Ah oui.
Une excellente chanson.
Comme à l'école communale, utilisons les mots cochons, utilisons des mots cochons pour brocarder tous les bouffons.
Sûrement à cause de mon foie, que j'ai sensible au moindre émoi, à moins que ça soit ma vésicule, ou bien encore mon trou du cul. Je sens une pulsion colérique me détruire les zygomatiques. J'ai envie de dire des mots salingues pour éviter de tomber dingue devant le spectacle infâme de nos décideurs qui brament leur sermon moralisateur. Ayez confiance, n'ayez pas peur, soyez solidaires, dynamiques, ne fumez pas de haki-que, entreprenez, investissez, soyez forêt déterminée. Et pour que l'État soit plus balèze, on vous piquera un peu plus de pèse. Nous pauvres cons, on baisse le front et ils organisent l'exclusion.
Entouré de ses pauvres cotons, le grand Mamamouchi nous fourre. Le grand Mamamouchi nous fourre à nous faire exploser l'oignon.
L'univers entier nous envie le talent de nos dirigeants, dont le cerveau la rabougrie ne véhicule que du vent. L'idée de la pensée unique, c'est plus c'est nul, plus je te nique. C'est vous dire la force des concepts qui germent dans leur cerveau inepte. La République sans jeu de mots, ils la prennent pour une pute, lui font des papouilles, des turlutes, et se foutent de guérir ses maux. La trahison de leurs promesses, ils la lui mettent entre les fesses. Le fin du fin pour leur boutique, c'est la renommée médiatique. De leur bouche d'or pointe éructant, leur langue de bois cousue de fil blanc, pour nous déverser un wagon de lieux communs comme des étrons.
Entouré de ses portes cotons, le grand Mamamouchi nous fourre. Le grand Mamamouchi nous fourre à nous faire exploser l'oignon.
J'entends déjà le réquisitoire contre ma chanson dégueuloire. Mais la chanson n'est pas finite, faut récurer le fond de la marmite. Qui sait ce pencus sans façon qui salit les institutions? Qui sait ce malheureux baveux et ses rimes à la mort moelle-neuve? Qui sait ce teigneux anarchique au mauvais goût catastrophique, donnant des armes aux extrémistes, aux factieux, aux pourris, aux fascistes? À vrai dire, j'en ai rien à foire du bon goût et des bonnes manières. Pourquoi nous laisser gouverner par des bouffons crétins fiefés? C'est de ne pas gueuler qu'on crève. On n'a qu'une vie et elle est brève. À cette pensée, mes yeux se mouillent. Faudrait plus qu'on nous casse les couilles.
Ça finit abrupt. Hein.
Michel Buller, un Suisse. Oui. Un Suisse. Vous travaillez en Suisse, on dit. Mm-hmm. Alors les Suisses, bon, enfin, je sais pas, on dit des choses. Ils ne jurent que par la croissance de leur portefeuille. Ou alors pour eux, quand ils voient un arbre, c'est un portefeuille.
C'est vrai.
Pourtant,
j'écris ça, oui, c'est vrai. En fait, la Suisse est un pays étrange parce que quand on arrive, d'abord, c'est très joli, ça c'est vrai, c'est une carte postale, hein, tout est propre, un peu trop à mon goût, mais enfin, c'est comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que, effectivement, quand vous voulez le soir visiter un peu la ville, enfin, avoir un peu la joie de vivre, tout ça, c'est difficile. je trouve qu'on dirait que c'est couvre-feu toute l'année chez eux. Mais par contre, quand on va chez eux à l'intérieur, dans leur maison, etc., là, on s'amuse bien. Donc, si tu veux, il faut un peu apprivoiser le Suisse. C'est ça que je voudrais dire. Donc, moi, j'ai appris à apprivoiser parce qu'au début, quand je jouais dans les salles, après le spectacle, je sortais en ville. C'était pas terrible, c'était fermé, où il y avait des cafés, enfin, je sais pas, je trouvais ça moche, quoi. Je trouvais pas ça, que ce soit à Neuchâtel ou ailleurs, je trouvais pas d'endroit. Et quand tu parlais avec les gens, bah, c'était genre sympathique, mais c'était un peu timide. Et puis par contre, là, avec les décodeurs qui est une émission radio, avec les chroniqueurs que j'ai rencontrés de l'émission, puis ceux qui organisent le spectacle, enfin l'émission, là, peu à peu, j'ai commencé à rentrer dans les maisons, chez les gens. Et là, je fais la fête, quand ils font vraiment la fête, mais plutôt chez eux à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est relié à une religion quelconque ou quoi, de ce côté à l'intérieur mais pas dehors, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça le Suisse. Ils préservent l'extérieur, c'est pour ça que tout est si propre, parce qu'ils font pas la fête dehors, mais dedans, c'est bien.
C'est leur côté peut-être un peu protestant. Là,
mais peut-être, je vais demander si c'est pas relié à ça. Ouais.
Bon, quand même, c'est vrai qu'il y a une communauté catholique, mais en général, ce sont des protestants, sauf dans la Suisse italienne.
Ouais.
Je crois que c'est un peu ce côté-là de...
Qui explique les choses, c'est possible.
On se trouve dans les pays nordiques aussi, quoi, c'est vrai.
Ouais. Enfin, ils essayent de soigner leur image. Hein. Par exemple, à Montreux, tous les ans, il y a un prix du sourire qui est attribué. Il vous a été attribué en 1995.
Tout à fait.
Prix du sourire.
Ça permet d'avoir quelques dates après. Oui, non, c'est chouette. C'est un gros festival d'ailleurs de Montreux. Et alors, c'était abominable, c'est qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque dans le jury, Eddie Barclay. Eddie Barclay est accompagné bien sûr de sa 225e femme, je ne sais plus. Enfin bon, il y avait tellement eu lui. Et qui devait avoir 25 ans, 28 ans, hein, fatalement, hein, c'est toujours comme ça. Et ce qui était terrible, c'est que donc il y avait des pistes de ski pas loin. Et quand on allait skier, en fait, donc la brave dame, la jeune fille, ne prenait pas le téléphérique. Hein. Il y avait un hélicoptère. Donc, elle descendait. L'hélicoptère reprenait la madame en bas, le remontait tout en haut, et puis elle pouvait redescendre comme ça, pour éviter le téléphérique. Enfin, voilà des trucs, tu te dis, il n'y a qu'en Suisse que ça existe, quoi.
statut de la femme de Eddie Barclay, non ? Tu n'as pas d'informations, Marc ?
Bah, il est mort déjà, lui. Hein.
Oui, il est mort.
Non, pas du tout. Moi, je dirais, c'est vrai que la dame, je puisse comprendre qu'elle puisse dire hélicoptère, parce qu'en règle générale, ceux qui conduisent les hélicoptères, ils s'appellent peut-être coptère. Que quand j'ai un taxi, j'ai hello taxi, le chauffeur de taxi s'appelle taxi, j'en sais rien. Mais moi je reviendrai sur effectivement le festival de Montreux, c'est effectivement plein de marbre, mais je tiens à dire quand même aux auditeurs que ça n'a pas empêché que Léo Ferré a chanté le chien à Montreux. Donc là c'est quand même, s'imagine que tu avais le chien ou tu avais quelque chose à nous faire entendre, tu peux peut-être mettre le chien ou...
Okay.
Ouais.
C'est parti.
Wow.
À mes oiseaux piaillant debout, chinés sous le bec de la nuit, avec leurs crêtes de coutil et leurs fourreaux fleuris de trous. À mes compagnes du père assis, à mes frangins de l'entreprise, à ceux qui gerçaient leur chemise, aux chiffres de père Momi, à l'araignée, la toile ouverte, à Biftec, baron du homard. Et sa technique du gaillard qui ressemblait à du hareng. Un bec d'azur, pif content qui crachait côté de Sancerre, sur les midnights à moitié vert, chez un bistre de Siki. Au spécialiste du Shkoumoun, qui se sapait de courant d'air, et qui prenait pour un steamer la compagnie de l'eau, au pané. L'hiver manger des nefs, à ceux pour qui le sou de trèfle, ça valait une cravena.
Le bonnet noir sur le vocabulaire. C'est exactement ça. Faire accepter l'inacceptable pour étouffer le sens commun, justifier sans beaucoup d'efforts ce qui est bien souvent totalement aberrant. C'est ce qu'on voit tous les jours, c'est ce qu'on entend à la radio, les titres des journaux. On est un peu dans une guerre du bon sens où la bataille se fait entre les valeurs de l'Église économique et les valeurs humaines élémentaires. J'ai l'impression que les gens s'y retrouvent plus et ont beaucoup de mal à formuler ce qui leur arrive dans le monde actuellement.
Pourtant, il n'y a jamais autant de moyens de communication, mais c'est pas pour ça que ça va mieux.
Pas au travail, c'est vous. Enfin, j'ai entendu ça chez vous, on se dit plus bonjour, on se dit bon courage. si vous demandez aux gens pourquoi ils sourient plus. Plus du tout, ils sont plus intéressés. C'est vrai qu'on, du tout par le de leur travail.
Oui. Le nombre de temps consacré au rire à la journée, on rit beaucoup moins qu'il y a 50 ans, alors qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens de rigoler, puisqu'on peut aller sur Internet chercher un sketch de quelqu'un ou voir des gens plus qu'avant, ben on devrait rire plus, mais on rit beaucoup moins, il paraît. Voilà.
Le sourire, c'est pas l'euro, quoi.
Non, ça c'est clair. C'est joli ça, c'est le sou, oui. Ah, peut-être qu'on reviendra au sou et au franc belge et français, hein, si ça tombe. Dans quelques années. Imaginez, il va falloir tout recalculer comme avant, divisant par 40,3399, je ne sais plus combien. Alors, enfin bref, chez nous, en tout cas.
Oui, c'est comme ça. Mais nous, c'est dans l'autre sens, donc on n'a pas le.
Oui, c'est ça,
nous,
ça serait terrible.
Ah, voilà.
Enfin bref.
Chacun ses problèmes.
Oui. Mon entreprise, on peut revenir au franc français très rapidement.
C'est vrai? Vous faites quoi?
On modifie des paramètres dans des tables et les prix changent.
Ah oui, d'accord, ben voilà.
C'est... Alors, effectivement, ça nécessitera quand même pas mal d'heures de traitement.
Oui, et puis les planches à billets qui vont recommencer.
Il faudra réimprimer tout ça. Et puis, ouais, ça peut être très rapide.
Et les euros, on les flanquer où alors? On les envoie où? En Afrique?
On va voir, on va voir. Bah, on va demander... peut-être que les Grecs montreront l'exemple.
Avec un drôle de drachme.
Voilà. En ce moment, donc, vous venez de sortir un livre. Je suis allé vous écouter donc samedi dernier à la bibliothèque municipale de Moucron, une lecture. Est-ce que vous allez venir faire ça sur l'île, par exemple?
Moi, c'est souvent, je réponds, on demande. Hein, donc, il y a des librairies, surtout à Bruxelles, qui m'ont demandé de venir faire ça des lectures. Il y a des gens aussi en bibliothèque qui m'ont demandé ça. Donc, moi, c'est de prime abord, c'est pas moi qui le fais, soit l'éditeur, Luc Pire. En Belgique, soit une personne qui se dit, tiens, ce serait chouette d'avoir ça dans le programme d'animation. Mais il n'y a rien de prévu pour l'instant sur l'île, mais pourquoi pas, moi j'adorerais. Ouais.
Parce que moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a l'air d'avoir, il y a un rideau de fer entre la France et la Belgique. Je veux dire, on voit des chanteurs qui parfois passent rarement la frontière.
C'est vrai.
Des artistes. Je veux dire. Il y a des expositions extrêmement intéressantes à Bruxelles, par exemple.
Oui.
Il y a très peu de Français qui...
Il y a quelques liens entre tournée et Lille.
Il y a énormément de liens.
Au niveau théâtre, tout ça. Mais bon, le grand public, tout ça. Mais il y a aussi que les tournées se font. Voilà, on tourne en Belgique, en France. Pour que le chanteur belge aille en France, il faudrait que le disque sorte en France d'abord. Ce qui n'est pas toujours garanti. Etc. Il y a des choses comme ça qui empêchent les tournées. Mais... Il faut voir ça sur le long terme aussi. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que quand je joue à un spectacle, je joue pendant un an en Belgique, et puis peu à peu, je commence à jouer à l'étranger. Et puis après, il y a le Québec, etc. Mais ça, c'est souvent en troisième année, parce qu'il faut le temps que les Québécois le voient. Enfin bref. Donc, c'est souvent par période. Donc, c'est pas nécessairement qu'on veuille rester dans un lieu précis. C'est que les choses se mettent en place et que ça met un peu de temps avant de se propager. Voilà. Mais c'est vrai quand même que je suis pas. Mais moi, je sais même pas ce qui se passe en culture en Flandre. Donc, c'est encore pire. Parce que il y a des expositions qui peuvent être vues partout. Il y a des spectacles en néerlandais. Là, il faut connaître la langue. Ouais. Mais sinon, il y a plein de choses à voir et on n'est pas au courant. Parce qu'il y a quand même un blocage. Il y a juste à Bruxelles où là, parfois, il y a des spectacles qui sont traduits avec un prompteur pour traduire la langue de l'autre. Mais sinon, généralement, les francophones voient des trucs francophones et les néerlandophones, des trucs néerlandophones, puis c'est tout, il n'y a pas de lien. C'est con, hein.
Il n'y a pas de lien, alors c'est très bizarre. Mmh. Parce que donc, votre livre, Le fond de l'air est frais, bon, il y a quand même des illustrations intéressantes. Et j'ai cru comprendre que le dessinateur n'habitait pas dans la région.
Du tout, non, il habite en Australie, lui, en fait. Donc, c'est un caricaturiste et un humoriste... dessinateur qui en fait travaille en Australie et en fait fatalement sur internet il a tout ce qu'il faut, les informations via des journaux principaux en Belgique et donc il s'intéresse à nos problèmes communautaires alors qu'il est à des milliers de kilomètres de chez nous et il envoie ses dessins au fur et à mesure des chroniques que je lui envoie ou que dans d'autres journaux aussi.
Finalement des dessins, je veux dire, sont... enfin moi je ne savais pas qu'il était
alors
il était là-bas, c'est pour ça un peu plus
non, c'est vrai,
ça colle à l'actualité,
tout à fait et il travaille au Vif l'Express, donc chaque semaine il envoie 2-3 dessins sur l'actualité belgo-belge là et chaque fois c'est très pointu, donc on se dit qu'il vit chez nous, puis non, il est très très loin.
Finalement nous sommes le 21 mai et on... Enfin, moi, je suis allé faire un tour sur Wikipédia. Alors, il y a peut-être des bêtises, hein, Mais j'étais assez sidéré de l'actualité du 21 mai. Bon, je rappelle que Yann Bucquois doit attaquer le Palais Royal ce jour. On va voir. À 13h, je n'avais pas de nouvelles.
Non, on verra.
Donc, bon, des choses amusantes. Hein. 21 mai 1996, Othon III est couronné empereur, donc en Allemagne. Mm-hmm. Hein, il rêvait de fonder un empire universel qui réunirait d'abord tous les peuples chrétiens. C'est une actualité criante. Et le comble, c'est qu'un de ses précepteurs fut un évêque calabré, Jean Philagatos, qui deviendra antipape, et ça c'est authentique, hein, c'est nous, Jean XVI, 4-4-4. C'est extraordinaire. Enfin,
l'antipape Jean XVI.
L'antipape Jean XVI, oui. Bon, 1358, début de la révolte des Jacques à Paris, un beau bain de sang à l'époque. 1870, entrée des Versaillais dans Paris, autre bain de sang. Et d'ailleurs, en 1804, le 21 mai 1804, ouverture du cimetière de Père-Lachaise.
Bon. Il est bien travaillé celui-là.
Ah, curieuse coïncidence. Bon, en 1502, découverte de l'île de Sainte-Hélène. Et alors là, une excellente. Il y a les naissances aussi. Bon, Dante, Platon, Albert Dürer. Et alors là, c'est le...
Émile Verhaeren.
Guy de Rothschild. Bon, qui est décédé un peu
En
2007.
Il n'a
pas eu le temps de voir.
Il n'avait que 98 ans.
Il a 98 ans, mais enfin, il n'a pas eu le temps de voir le cours de ses actions plongées. Alors là le summum dans Wikipédia, en 1759, naissance de Joseph Fouché, homme politique français. Alors ça, c'est authentique. Le ministre de la police de Napoléon, on le qualifie d'homme politique français.
Homme remarquable, grand révolutionnaire qui a effectivement mal tourné.
Qui est devenu, bon...
un personnage...
comment dire, un ministre de la police.
Ouais. D'accord.
Il y a un excellent livre de Schlegg, je crois, qui est sorti là.
Qui parle de ça ?
Qui parle de ça, de Fouché. C'est un beau pavé, mais c'est vraiment intéressant. C'est quand même, bon, au-delà de ce que vient de dire notre ami André, c'est quand même apparemment un personnage très intéressant. Bon, sous multifacette, certes,
mais multifacette,
une intelligence quand même remarquable.
Ah oui, bien sûr. Bon, c'est quand même bien, comment dire, il a bien mis les mains dans ce qu'il fallait.
Il a bien viré comme il fallait, mais
voilà. C'est pas une petite. Bah, tiens, Bruno.
Une chanson, je vais puiser là-dedans. Alors.
Pas, oui, voilà.
Qu'est-ce qui m'intéresserait là-dedans d'écouter ? Donc, un mot correspond à une chanson.
Un mot correspond à une chanson.
Ce qui m'intéresse bien, c'est 18. Hygiène.
Ah, 18.
C'est quoi ?
Voilà.
Je suis curieux de savoir ce que c'est comme chanson reliée à l'hygiène.
C'est une.
Les mots propres.
C'est presque ça. C'est Marie Choquette, la petite salle.
Ah.
Mais c'est une chanson intéressante.
On va l'écouter.
Je suis la petite salle de la grande salle. Je suis urinal, mental, oral. Je suis génital, vénal, municipal. Je suis virginal, je suis virginal. Sacerdotal, je me donne à qui me veut. Nuptial, je m'offre à qui veut m'en fêter. Conjugal, je me prête à qui veut m'engrosser. Cheval, à qui veut me monter. Confessionnal, à qui veut me confier. Bacchanal, à qui veut m'enivrer. Je suis la petite salle de la grande salle. Je suis la petite salle de la rue principale. Je suis sentimentale, illégale, antisociale. Je suis théâtrale. je suis théâtral. La 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 la. Je suis la petite salle, la petite salle. Charité, s'il vous plaît. L'aumône, s'il vous plaît. L'amour, 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 s'il vous plaît.
Marie Choquette, la petite salle. Vous écoutez Radio Campus, 106,6 MHz ou sur le web, www.campuslille.com. Et nous recevons aujourd'hui Bruno Coppens. Bruno Coppens, donc, je rappelle quand même que vous avez plusieurs pièces de théâtre à votre palmarès. Hein, Benzène, par lesquelles on a commencé, Ma thérapie, Ma déclaration d'humour. Un pro justicieux.
Alors ça c'est un collectif.
Je
ça.
Vous ai vu à tourner avec ma.
Et ah vous avez vu ça aussi.
Ah bah, oui. J'emmène ma fille de 11 ans un au tribunal.
Oui c'est ça voilà.
C'est la première fois que je mettais les pieds dans un tribunal.
Oui. En fait l'idée c'est qu'à Nivelles, donc une ville en Belgique, il y a deux palais de justice dans la même ville qu'une petite ville, un ancien et un nouveau. Et donc ils avaient dit mais ce serait bien d'imaginer la langue française, la fête des mots dans le palais de justice. Du coup, j'avais ramené une série d'avocats de la défense et de l'accusation qui étaient tout à fait des comédiens, hein, pas du tout des vrais avocats. Et on traitait de sujets genre sur le bilinguisme en Belgique, sur le fait que notre roi est en fait un asexué linguistique. Ça, c'est marqué dans les lois. Le roi ne peut pas être francophone, il est francophone de souche, mais il ne peut pas parler ni en français ni en allemand, il doit parler toutes les langues. Donc il doit être asexué en dehors du problème linguistique. Donc on s'est dit, on va faire un sujet là-dessus, c'est trop drôle, la sexualité linguistique, pourquoi la sexualité dans le... Enfin bref. Donc on a fait tout un débat avec... Et les gens dans la salle recevaient un mirliton et un sifflet. Et selon les plaidoiries des avocats, ils sifflaient ou ils disaient, ouais, super, ça c'est très bien, etc. Il y avait une sorte de jeu. Donc c'était un procès comme ça qu'on a joué pendant une vingtaine de fois dans différents palais de justice en Belgique. Et puis après, ben voilà, les palais de justice sont assez petits. Donc pour le public, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait que 100-120 places par soirée. Donc c'était un peu... compliqué de faire tourner, mais l'idée était belle. En tout cas, c'était rigolo de faire ça.
L'idée était belle, mais enfin, vous avez condamné le passé simple, si mes souvenirs sont exacts.
Oui, exact aussi, mon Dieu, j'ai une bonne mémoire.
Alors, il a écopé.
Tout à fait. Oui, je ne sais plus pourquoi on parlait du passé simple, on l'a condamné complètement. Et puis à la fin, tu as quand même deux vrais avocats belges qui venaient, des pointures du barreau belge, qui venaient aussi faire leur plaidoirie sur la langue française. C'est assez rigolo. Ouais.
Autre spectacle, je pense comment
Il y a Ma thérapie qui continue toujours à jouer. Je jouerai au Québec la saison prochaine. Et puis si au mois de juin, le 18 et 19 juin, je serai près de Mons en Belgique, c'est pas très loin d'ici, à Moulins-Saint-Denis, c'est une petite salle sympa où je jouerai deux soirs le spectacle. Et en fait je prépare un nouveau pour novembre. Ce sera le 12 novembre à Tournai, Maison de la Culture, et ce sera Mes singeries vocales. Et là, le spectacle cumulera des textes et des chansons avec un pianiste sur scène. Et voilà, je suis en train de le répéter, donc je ne peux pas trop vous en parler parce que je ne sais pas où je vais encore.
Donc à tourner, Maison de la Culture.
En novembre.
Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de Français qui sont inscrits.
Oui, il y a beaucoup d'abonnés, effectivement. Ouais, ça, c'est chouette, ça.
À cette Maison de la Culture.
Sinon tout, toi,
sinon tout va bien.
Sinon en une heure on peut pas faire le tour de toutes les questions, soit la question qu'on traite. Donc ce serait bien que nos auditeurs et nos auditrices aillent faire un tour sur un site.
Oui, BrunoCoppens.com. Donc c'est au 2PENS, BrunoCoppens.com. Alors on peut y retrouver des podcasts des billets d'humeur que j'ai fait, soit au Jeu Dictionnaire, soit au Fou du Roi sur France Inter, des portraits de Johnny Hallyday, des trucs comme ça. Puis les dates des spectacles, et puis voilà, ou laisser un petit mot par rapport à ce qui s'est dit dans cette émission, pourquoi pas. Voilà,
et puis, les bouquins, on peut les...
Oui, commande aussi par Internet, oui, tout à fait. Ouais.
C'est par Internet.
Oui, ça aussi. Bah, en librairie aussi, mais en France, c'est un peu compliqué avec la distribution. Je ne sais pas où ça en est. Je crois qu'il y a ça à la Fnac de Lille, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, par le site, c'est possible. Ouais.
Voilà, BrunoCoppens.com. Oui. BrunoCoppens.com.
Précédé des 3W, et j'ajoute que... Bruno Coppens, bon, vous participez à l'émission le jeu des dictionnaires la semaine infernale sur la RTBF. Ouais. Pour nos auditeurs français ou belges qui connaissent, le samedi 12 mai, petit déjeuner lecture,
non, pas le 12
mai, le 12 juin. Non, c'est à la fin du mois, c'est le dernier samedi de ce mois-ci, oui. À la Maison de la Culture de...
C'est le 29 alors.
De Moucron, 29 ça doit mai, être le 29 alors. Mai, oui. Oui. Jacques Mercier présente Thomas Gunzik.
Oui, qui est un pote à moi.
De 10 à 12.
C'est très bien, c'est très drôle, très incisif, très, très mordant, et il joue aussi avec moi au jeu du dictionnaire sur la première, au RTBF.
Mais ça faut y aller. J'ajoute que Thomas Gunzik a écrit une pièce de théâtre, L'héroïsme au temps de la grippe aviaire.
C'est très drôle.
Est-ce que je peux jouer avec Bruno Coppens?
C'est un des manques de
vie
au jeu du dictionnaire.
Ah ben...
Dictionnaire.
Dictionnaire, voilà. Jeu dictionnaire.
Petit dictionnaire.
Comme dictionnaire.
Oh. Bon, très bien.
Il en reste
bon.
Encore.
J'ai joué, j'ai pas gagné. Oui. Ça... Et l'émission passera en différé. Quoi.
Ferré. Il... Tous les dimanches.
Mais peut-être, tu n'as pas un extrait d'un de ces spectacles?
Ah, ça doit être au début, mais...
Au début, mais pour terminer, là, comme oui. Ça. Non, mais ça, on peut le passer, quoi. Puis ça...
J'ai aussi, à la guillotine. Non, pas vraiment, parce que...
On l'a fait au début,
déjà. Pas vos DVD, ouais. On les a fait au début. Mm-hmm. On peut parler de la guillotine, si on veut.
Voilà.
Vas-y, la guillotine.
J'ai sérieux, la guillotine, le numéro 20. C'est un engin qu'il va falloir remettre en service. Je sais qu'il y a des opposants à la peine de mort, mais bon... La
ça,
crise
alors.
Qui s'annonce.
La peine de mort pour les êtres humains. Pas voilà. Pour ceux qui s'excluent d'eux-mêmes de la,
merci
l'humanité.
Beaucoup,
pour cela, il faut remettre la chose.
Il y a des gens qui s'excluent de l'humanité. Oui.
Ah d'accord.
Bruno Coppens.
Pluche, ce mot va très bien dans ce château qui rappelle les rois, Louis XIV, la décapitation. Le mot pluche est né avec la génération de guillotine. On en connaît trois en fait de génération. Celle avec le couperet qui inspirera beaucoup les fabricants d'électroménagers et de robots mixeurs, puisque la guillotine est une sorte de hachoir minute pour grosses légumes. La toute première génération était une simple scie avec une lame affûtée qui tronçonnait la tête du roi, qu'on appelait prépuce, puisque c'est quand même un circoncis. Et la guillotine qui permit l'arrivée de la pluche, c'est bien sûr la guillotine qui copia le modèle des machines à couper le pain, qu'on trouve maintenant encore dans les Deleuze et les Carrefour. C'était une boîte en métal avec un couvercle comme ça, on levait le couvercle, on forçait le roi à placer la tête dedans, on fermait le couvercle vaille que vaille, on appuyait sur le gros bouton rouge devant, ça faisait pop 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 pop, et la tête passait à travers une vingtaine de petites lames placées très serrées l'une contre l'autre, comme des dents, et peu à peu la tête ressortait de l'autre côté en toute fine tranche. C'est là qu'intervenait la pluche. C'est le nom du sac en papier brun pour recueillir les fines tranches de la tête coupée. Attention, il faut bien tenir l'extrémité de la tête, car sinon les tranches du crâne et celles du menton risquaient de tomber sur le côté. Fais glisser le tout dans la pluche, et attention, bien choisir le sac. Il y a la pluche numéro 1 et pluche numéro 2. Vu la taille du cou des rois de France, le sachet numéro 1 avait un gros succès. Et lorsque une tranche de tête royale tombait à côté, le bourreau auvergnat de souche l'a ramassé en disant « C'est bien un peu pluche, je vous le mets quand même, c'est l'origine du mot. »
S'il y a un peu plus, je vous le mets quand même. C'était Bruno Coppens sur la RTBF, un extrait
du jeu des dictionnaires.
Eh bien, nous allons, après cette émission style Joyeux Mélange, une émission de Radio Campus Lille, nous allons nous quitter sur
merci de m'avoir invité, en tout cas.
Oui, et puis je pense que c'était une première, mais qui va se poursuivre, je pense. Et puis,
pourquoi pas.
On essaiera de faire des choses ensemble, quoi, sur le campus aussi, sur Radio Campus et sur le campus,
ah,
sur,
ben pas, oui.
Sur Villeneuve d'Ascq, okay. Pourquoi pas, il y a des possibilités.
Donc Bruno Coppens.
C'est une barmaid qu'est ma darling, mais in the bed, c'est mon travelling, mon best-seller. Et mon planning, c'est mon starter à faire chaving. Je suis son parking, son one-man show, son fuel, son king, son slip au chaud. Rien qu'un petit flash au 5 o'clock, je paie toujours cash dans le bon Dieu scope. Et je cause français. C'est un plaisir. C'est ma starlette, ma very good, mon pic galette, mon Hollywood. C'est ma baby au petit fortou. C'est ma lady au antitou. Je suis son jockey, son steeple chase. c'est la drivée à la française dans le sleeping car. After paillasse, à son milk bar, je me tape un glace et j'cause un sec. C'est un plaisir. Et ma call girl, ma savourex, qu'efface sa gueule à coup de Kleenex. C'est ma Lucky, c'est ma Palmal, ma Camel qui fait ça pas mal. Quand c'est ok, on fait le remake. Quand c'est loupé, on fait avec. J'lui fais le mohair et la syntaxe. Très rock in chair, je shoot relax. Et j'cause français, c'est un plaisir. C'est une barmède qu'est ma darling. Mais in the bed, c'est du forcing. C'est du pam pam à chaque coup de gong. C'est plus une femme, c'est un ping-pong. Quand je suis out, elle me sex appeal. Et dans le blackout, je smash facile. Sur son standing in extremis, je fais du pressing au self-service. Et je cause français, c'est un plaisir. C'est mon amour, mon coquelicot, mon petit bonjour, mon petit oiseau. And je speak French. C'est un plaisir.